Cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 3 novembre 1994.
L'éthique religieuse est-elle postérieure à la sagesse philosophique par laquelle s'achève toute la recherche métaphysique? Ou bien peut-elle se développer à partir de l'adoration que l'on trouve dans les traditions religieuses? L'éthique religieuse regarde-t-elle la sagesse philosophique comme tirant d'elle un principe ou bien comme son fondement? De même que l'éthique fondamentalement humaine vis-à-vis de la philosophie du vivant, touche-t-on là le problème des rapports entre la sagesse et la prudence, la sagesse et la vertu? Point de vue génétique, avant que la philosophie première ait découvert philosophiquement l'existence d'un être premier. Il y a les traditions religieuses. Les traditions religieuses dans l'ordre pratique. Or, l'éthique religieuse est dans l'ordre pratique. Avant les sophistes, qui sont l'hérésie philosophique, opportet RSSC, avant les sophistes, les traditions religieuses suffisent pour donner un climat religieux et demander le culte religieux et demander l'adoration. C'est un fait. On est dans l'ordre pratique. Dans l'ordre pratique, l'opinion prudentielle suffit. Il semble sage de reconnaître qu'il existe une existence de Dieu. Vous voyez, on est en face d'une connaissance, j'allais dire presque spontanée, dans l'ordre de l'amour. C'est dans l'ordre pratique. Dans l'ordre pratique, c'est vraiment insensé de dire que Dieu n'existe pas. Puisque dans l'ordre pratique, tout nous conduit vers Dieu. Dans l'ordre pratique, je dis bien. Dans l'ordre pratique, si on commence à douter, on prend le pari de Pascal. Tu ne sais pas très bien si Dieu existe, mais c'est tellement important à l'égard de Dieu de reconnaître qu'il existe, qu'il vaut mieux tout qu'on fait, ça ne te gêne pas tellement. C'est le pari de Pascal. Et ça, au point de vue pratique, c'est très fort. Parce que dans l'ordre pratique, on fait ça tout le temps. Mais on a confiance quand même dans l'économie. Et encore, même si on dit que c'est complètement idiot l'économie qu'on vit, on confie dedans. Et les peuvent être tout de suite jugés au désert parce que cette économie est idiote. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais il faut attendre que les choux poussent au désert avant de pouvoir y aller. Comment vous allez manger uniquement le sable ou le, où il n'y aura rien. Il y a une prudence pratique qui nous fait comprendre que, ben oui, existe. Cette saisie des principes pratiques, il a nécessairement un être supérieur à tout ce que nous voyons. Ah, c'est pas une connaissance théorétique, c'est pas une connaissance absolument certaine comme la philosophie première, puisque c'est une connaissance pratique. Donc, à ce niveau-là, puisqu'il s'agit d'éthique, et donc d'une attitude pratique, une connaissance prudentielle suffit. Et cette connaissance prudentielle peut se fonder sur les traditions religieuses. Les traditions religieuses représentent quand même une sagesse pratique qui est très grande. Supprimer les traditions religieuses, comme le font les idéologies athées, c'est souverainement imprudent. On vit dans l'imprudence quand on vit dans l'athéisme. Et il faut arriver à ce que le climat soit suffisamment dépendant des communications et de ce que le public peut dire pour que les hommes suivent plus ce que dit l'humanité d'aujourd'hui, des petites traditions de 50 ans, de 100 ans, et refuser les grandes traditions humaines. Il faut vraiment arriver, voyez, à une bêtise généralisée. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. Ce qu'on vit aujourd'hui est une bêtise généralisée pour le philosophe. Ce sont des traditions de quoi ? 100 ans, 200 ans. Et toute l'humanité aurait vécu comme des imbéciles. On croit qu'on soit beaucoup plus intelligent parce qu'on va dans la Lune. C'est remarquable. Parce qu'on a l'électricité. Parce qu'on a la technique. Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport au mystère de Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au mystère de l'âme spirituelle ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'amour d'amitié ? Vous voyez, je crois qu'il faut là le réalisme très simple de comprendre que les traditions religieuses représentent un poids de sagesse humaine. Et supprimer ces traditions religieuses, tout simplement parce que on est dans un climat d'idéologie athée. Et que ces idéologies athées font partie de la propagande. Et qu'on est en face d'un climat aujourd'hui de laïcité. Et que tel ou tel qui est à la tête de 30 000 ou 50 000 personnes a le droit de dire « j'impose la laïcité au monde entier ». C'est stupide. Au point de vue de l'intelligence et de la sagesse pratique. On en est là. Il devrait y avoir en face de ça comme une révolte de l'humanité. Mais vous êtes des imbéciles. Oh, c'est pas ça du tout. L'humanité est dans un esclavage à l'égard des propagandes. Un esclavage généralisé. On n'ose pas. Et on n'ose plus. Et on se laisse prendre. C'est, je crois, ce que on doit constater quand on se pose le problème de l'adoration, de la reconnaissance des dieux ou de Dieu. C'est tellement important pour nous et pour les hommes de regarder est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Toute la vie humaine est totalement changée. Et devant cette conclusion si capitale, on écoute davantage les sophistes modernes, ceux qui se drapent du manteau des philosophes. On écoute cela en mettant un terme aux grandes traditions religieuses. Et alors, c'est ce qu'on vit, ça. Moi, je crois qu'il faut être là extrêmement net et réfléchir là-dessus. grand au point de vue pratique que tel ou tel qui prétendent que Dieu n'existe pas. Et ceux qui affirment que Dieu c'est le grand architecte, c'est déjà quelque chose. Ils reconnaissent qu'il y a quelqu'un. Alors on peut le montrer que ce quelqu'un n'est pas du tout un architecte. Que ce quelqu'un est un père. Ah ouais, alors c'est la rivalité de l'architecte en face du père. Or l'architecte c'est l'efficacité et le père c'est l'amour. On en est là. Il faudrait ouvrir ce grand débat. Quelqu'un qui aurait un art rhétorique suffisamment fort devrait ouvrir ce grand débat. Choisissez-vous l'architecte ou le père? On a tué le père pour que l'architecte passe devant. Parce que les grandes loges reconnaissent quand même l'architecte. Mais ni le père. Alors, les traditions, les jeux ne parlent jamais de l'architecte, ils parlent du père. Parle celui qui est à l'origine et qui est un père. Le néoplatonisme, qui est quand même la grande philosophie. La grande philosophie, au point de vue multitude, pas la grande philosophie au point de vue vérité. et conduit à un esclavage. Et ça, on a le droit de se battre là-dessus. On a le droit et on a le devoir de se battre. C'est un devoir élémentaire. Donc, voyez bien, c'est très, très, très important de comprendre cela. Donc, l'éthique religieuse se fonde sur la prudence. Mais pour pouvoir faire voyez bien le statut de l'expérience du vécu et le statut philosophique. Et c'est ce que Maritain, lui, a mis le pratico-pratique et le point de vue philosophique. J'aime pas beaucoup cette distinction. J'aime lui dire tout simplement la distinction du vécu. J'adore Dieu, c'est du vécu. Quand je fais un acte d'adoration, premier acte d'adoration de ma journée, c'est du vécu. Si je me réveille, je me mets à genoux, je prie. C'est le vécu. C'est pas de la philosophie, c'est le vécu. Même si vous n'avez aucune métaphysique, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire ça à votre grand-mère. Elle n'a aucune métaphysique. Mais elle a une sagesse de grand-mère. Oh là là. Une sagesse de grand-mère, ça ne se vend pas. C'est ça qui fait le patrimoine d'un pays. Ce sont les grand-mères qui font le patrimoine d'un pays. Et le jour où toutes les grand-mères descendront dans la rue pour dire... pour dire, eh bien, on Moi, c'est ces samples qui sont extraordinaires, ça. Parce que ça montre. Et après, demandant, vivant dans un milieu religieux, chrétien, demandant qu'on dise une messe pour elle. Oui, la foi implicite au Christ. Une personne comme ça est reçue, n'est-ce pas, au ciel. C'est bien celui que j'attendais, le Messie. Puisque les psaumes, c'est la prière messianique par excellence. C'est l'attente du retour du Christ, les psaumes. C'est pour ça qu'on doit les rester debout. Parce que c'est l'attente du retour du Christ. On n'est pas assis quand le Christ viendra. Il est là. Ça, c'est bon pour les chanoines. Oui, parce que dans le temps, pour la procession du retour du Christ, ils seront les derniers. Vous comprenez, alors ils sont assis. Tandis que les premiers, ce sont ceux qui seront là debout. Et on doit rester avec force. Prière. Oui. C'est cette prière qui reste dans le cœur de l'âme juive. Et qui est quand même quelque chose de très fort et de très grand. Tradition religieuse. Alors c'est vrai, pour beaucoup, c'est une opinion, mais une opinion très enracinée. Ça suffit pour la vie. Ça ne suffit pas pour faire l'éthique religieuse au plan philosophique. Donc nous nous faisons une éthique religieuse au plan philosophique. Ayant découvert au plan philosophique l'existence nécessaire d'un être premier qui est notre Créateur et notre Père, nous comprenons que l'attitude la plus radicale, la plus profonde, c'est de reconnaître dans l'ordre pratique, donc dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre volontaire, de reconnaître que celui qui est notre Créateur doit être aimé, qu'on doit le remercier de nous avoir donné la vie, l'être, l'intelligence, la capacité d'aimer, puisqu'il est source de tout ce que nous sommes, de tout nous-mêmes. Cette source cachée, du Dieu caché. Vous voyez, c'est, j'allais dire, l'exigence la plus radicale de la créature raisonnable. C'est par là que la créature raisonnable commence à vivre comme créature. Or, ce qu'il y a de plus radical en nous, puisque ça touche notre être, c'est d'être créé. Tant qu'on n'a pas découvert qu'on est un être créé, vérités qu'on affirme ne sont pas absolues. Dans l'ordre pratique, la vérité absolue dans l'ordre pratique, c'est de reconnaître que nous sommes une créature et que nous devons vivre comme une créature raisonnable. Puisque tant qu'on n'a pas découvert cela, on vit à la surface. On vit en croyant qu'on est totalement autonome. On vit en croyant que personne n'est au-dessus de nous. Et donc on vit à la surface. Peut-être déjà profondément, d'une manière scientifique et technique, mais c'est très la surface comparativement à la dépendance en l'ordre de l'être. On voit que notre monde qui se construit de plus s'effondrer en un instant. Tout notre univers est comme ça. Aujourd'hui. Sauf le petit reste de ceux qui adorent. Selon le langage de l'Apocalypse, qui n'ont pas le chiffre de la bête inscrit sur le front ou sur les mains. C'est très impressionnant, ça, comme vision de sagesse au plan philosophique. Tout ce qui n'adore pas Dieu est artificiel. Et ça, je peux le dire au nom de la sagesse philosophique, au nom de l'éthique religieuse. Tout ce qui n'adore pas Dieu est du superficiel, est artificiel. Donc, présuppose quelque chose qu'on ne veut pas regarder. Alors ça, c'est souverainement imprudent d'édifier quelque chose sur quelque chose qu'on ne veut pas regarder, en faisant croire que ce qu'on édifie est premier et fondamental. Donc, on supprime le fondement et on supprime le sommet. Et on construit un monde artificiel sur l'économie. Et on fait croire que c'est la seule chose qui permet à notre monde d'avoir son unité. Voyez, l'acte d'adoration qui reconnaît que nous sommes totalement dépendants d'un être premier, notre Créateur, nous met dans la vérité. Et on reconnaît par là que la vérité première pour une créature raisonnable, c'est de tout remettre à Dieu, puisqu'on a tout reçu de lui. Et si on a tout reçu de lui, ce qu'on a reçu de lui ne peut être utilisé, ne peut être vécu que s'il est remis dans un ordre qui soit vrai. Et cet ordre qui est vrai, c'est de reconnaître la dépendance totale dans l'ordre de l'être à l'égard du Créateur. Au-delà de la vie, au-delà de l'intelligence, esse vivere intelligere. Donc, l'intelligence ne peut être vraie que quand elle revient au vivere. Et quand du vivere, elle revient à l'essai. Et tant qu'on n'est pas revenu à l'essai, on n'est pas dans la vérité. Hegel voudra revenir au vivere et ne reviendra pas à l'essai. Et donc, sa vérité n'est pas radicale. C'est l'acte d'adoration qui me met dans la vérité pratique et qui me fait comprendre que par l'adoration, je construis sur le roc toute ma vie. Et que tant que je n'ai pas découvert ça, je ne construis pas sur le roc, je construis sur un terrain mouvant, sur la relativité. Tout change. Mais ma vie personnelle ne peut être construite que là. Et c'est à ce moment-là, grâce à l'adoration, que je suis dans la vérité. Parce que je suis relatif à celui qui est ma source, à celui qui est tout pour moi. Et je me mets relatif à lui. Et je reconnais que tout dépend de lui. Vous voyez, alors je dis ça tout de suite, voyez la différence de cet acte d'adoration, de celui-ci. foi. Ou je l'ai jamais eu. Je m'appuie sur les traditions religieuses. Alors voyez, par le fait même, il demeure toujours dans mon intelligence un manque de certitude. Cette opinion, si respectable qu'elle soit, demeure une opinion. Et donc, elle ne détermine pas totalement mon intelligence spéculative en recherche de la vérité. Elle détermine mon intelligence pratique, prudentielle. Mais cette intelligence prudentielle n'est pas entièrement déterminée au point de vue profond, au point de vue spéculatif. Donc, il demeure un certain doute. Pas au plan pratique. Au plan pratique, je sais que je dois faire ça. Vous voyez, je sais que je dois faire ça. Il y a un petit quelque chose de l'impératif catégorique. Parce que je n'ai